I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mai 2009 et c'est l'épisode numéro 8, Display Extended. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle internet, gadgets et toutes sortes de petites choses intéressantes, j'espère. Aujourd'hui, on va parler de DVD, de Adopi, de TF1, de Kindle DX, de Facebook, de MacBook Mini et aussi de jeux vidéo, une petite partie un petit peu plus détendue. Et avant ça, évidemment, je voudrais dire bonjour à mes invités super spéciaux du jour qui sont Yann et Jeff, donc nos grands réguliers. Comment allez-vous les gars ?
Ben écoute, ça va plutôt bien. Hein. J'ai lu dans un des commentaires d'iTunes qu'un auditeur nous avait laissé un message comme quoi il y avait un des panélistes qui avait une voix un petit peu efféminée. Et donc, vu que vous avez tous un caisson de basse dans la gorge, par déduction, j'en ai déduit qu'il s'agissait de moi. Donc j'ai décidé de sortir ma voix de crooner ce soir et j'espère être à la hauteur de vous deux. Voilà.
Tu es toujours à la hauteur, Yann, toujours. Jeff, ça va bien depuis la Silicon Valley ?
Un grand bonjour de Palo Alto, il fait un grand soleil, il fait très beau, il fait très chaud.
Et t'as bien de la chance. T'as bien de la chance, ici il fait un temps pourri, on se croirait en novembre une fois de plus.
Enfin. C'est ce que Loïc qui vient d'arriver à Paris m'a dit, qu'il faisait un temps pourri et que c'était pas comme à la maison.
Oui, je regrette mes voyages en Californie. Hein. Faudrait qu'on l'ait un jour dans l'émission Loïc, s'il est partant. Je sais qu'il est.
Oh, il est toujours partant.
Il est partant pour tout, ouais. Ce fameux Loïc Lemeur. Bon, il faut aussi remercier la chatroom d'être présente et nombreuse comme d'habitude. Tout le monde va bien dans la chatroom, de plus en plus nombreux, c'est incroyable. Je leur fais un petit bonjour puisque ils me voient avec la webcam. Et si vous voulez nous voir en direct quand on enregistre l'émission, enfin me voir et entendre les autres, vous pouvez aller sur le site web et là vous aurez tous les détails dans la partie streaming live. Il y a un petit calendrier et tous les détails sur la manière de nous rejoindre dans la chatroom. Bah écoutez, ça va être tout pour l'introduction parce qu'on a pas mal de choses dont on veut discuter et donc on va se lancer immédiatement dans le cœur de l'émission avec un premier sujet qui est à la fois surprenant et invraisemblable à la fois. Je m'explique. Il y a deux parties à l'histoire. La première, c'est que la MPAA, qui est la Motion Picture Association of America, donc l'association qui s'occupe de défendre les droits des producteurs et des sociétés de production de cinéma aux États-Unis, donc cette MPAA voudrait interdire l'utilisation d'un logiciel développé par la société Reel qui permet de ripper les DVD sur votre disque dur. Ce que ça veut dire, c'est de simplement faire une copie du film sur votre disque dur. Et ce qui est surprenant là-dedans, c'est que cet usage est généralement protégé par ce qui s'appelle le fair use, donc l'utilisation raisonnable, spécifie que quand vous achetez un produit, et en particulier un produit média, et ben vous en êtes le propriétaire et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et cette utilisation raisonnable inclut le fait d'en faire une copie. C'est comme si on vous disait, vous achetez un CD, et ben vous avez le droit d'en faire une copie sur une cassette ou de le mettre sur votre disque dur, comme ça se fait déjà beaucoup. Donc c'est surprenant parce que la MPAA essaye de faire interdire le fait de faire une copie sur le disque dur d'un produit qu'on a acheté. Ce qui est déjà plutôt étonnant. Mais là où ça devient complètement ubuesque, c'est que ils sont en discussion avec le US Copyright Office, donc les autorités qui sont censées réguler l'utilisation du droit d'auteur aux États-Unis. Et il y a un des problèmes qui est que les profs se servent souvent de ce type de logiciel pour extraire des morceaux de films et les projeter à leurs élèves dans leurs cours. Et ce qu'a dit la MPAA, c'est que plutôt que de faire ça par un logiciel ou par un ordinateur, il suffisait de mettre une caméra devant son écran.
Non, mais c'est
hallucinant. Hein. On se croirait à un 1er avril. Donc, mettre une caméra devant son écran, filmer l'extrait du film qu'on veut projeter à ses élèves et le retransmettre à ses élèves ensuite, mais avec l'image qui a été filmée. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il préconise de filmer avec une caméra son écran de télé. C'est doublement surprenant parce que c'est un truc qu'ils combattent dans les salles de cinéma depuis des
Absolument.
Années. Et je crois que Yann, justement, c'est à ce sujet que tu avais un petit truc à dire.
Bah, écoute, moi déjà, ne serait-ce qu'au niveau de Real DVD, je trouve ça un petit peu ridicule, quoi, parce que ça fait des années qu'on a des milliards d'applications qui permettent de ripper un DVD en un clic, et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre l'acharnement du plaignant comme de l'accusé d'ailleurs. Je vois pas vraiment ce qu'ils vont grappiller comme terrain, vu qu'on a plein d'applications gratuites qui permettent déjà de faire ça. Et en plus, comme tu l'as souligné, ceux qui viennent de décrire là, c'est-à-dire filmer un film avec une caméra, ça existe sous forme de, enfin on appelle ça plus communément sur internet des screeners, et ils combattent ça bec et ongles, et d'un autre côté, ils le recommandent quand même aux profs qui veulent diffuser des films, quoi, enfin à leur salle de classe. Donc c'est complètement incompréhensible, c'est un non-sens, et c'est vrai que j'ai du mal un peu à comprendre leur logique là-dessus, quoi.
Je mettrai un lien sur la vidéo en question dans les notes de l'émission, et effectivement c'est une présentation tout à fait sérieuse au US Copyright Office, où ils expliquent que c'est comme ça qu'on peut faire et que ça ne pose aucun problème. Enfin, c'est ubuesque, franchement j'avais du mal à y croire quand j'ai vu la vidéo. Et une petite note, tiens, à propos de ce sujet, qui appuie plutôt nos arguments, qui sont que ce genre de problème de copie ne sont que très périphériques au succès d'un film en salle, qui est que le film Wolverine, qui était un gros blockbuster de ce mois-ci, a fait le plus gros week-end de 2009 à ce jour aux États-Unis. Donc il a rapporté le plus d'argent pour le premier week-end en 2009. Avec 87 millions de dollars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le film en question a été disponible sur Internet plusieurs semaines avant sa sortie. Ça s'est déjà produit, ce genre d'incident, et à chaque fois, pas à chaque fois, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, quand le film était bien reçu, il a eu un grand succès, malgré le fait qu'il était disponible gratuitement, quasiment, sur Internet pour tous les pirates de la Terre, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Parfois, le film n'a pas eu un énorme succès. C'était le cas du premier film de Hulk, il y a quelques années. Mais là, le véritable problème était que les critiques ou les gens qui avaient vu le film en pirate l'avaient assassiné et l'avaient trouvé très mauvais. Ce qui n'était pas vraiment le cas de Wolverine. Donc,
mais ce qui est ridicule en plus, c'est que si jamais tu tiens ce discours devant les majors, ce qu'ils vont dire, c'est que ok, d'accord, on a fait 87 millions de dollars de chiffres avec ce film, mais si jamais il n'avait pas été leaké sur Internet, bon, on aurait fait 200 millions. Tu vois, c'est toujours la logique que si jamais c'était pas disponible illégalement, on aurait fait beaucoup plus de chiffres, quoi. C'est un raisonnement qui est complètement stupide et.
On peut pas avoir raison, quoi. Quel que soit le cas, on en vient. Ils ont toujours une réponse qui dit que qu'on ne peut pas, que notre raisonnement ne se tient pas, ce qui est. Ouais. Mais on est un petit peu d'accord tous les deux là quand même. J'ai envie de me tourner vers Jeff, qui a un esprit peut-être un petit peu plus business, un petit peu plus qui pourrait avoir une certaine empathie avec ces gens-là, pour lui demander si on est un petit peu utopique ou un petit peu trop rêveur, ou est-ce qu'ils ont véritablement une légitimité dans leur demande et dans leur requête et dans leur procès.
Non, tu vas pas trouver une oreille qui va commisérer avec ces gens-là, puisque ça fait des années qu'ils cherchent une façon de contrôler la distribution électronique. Clairement, c'est une industrie qui va à l'encontre du progrès ou qui marche à reculons plutôt que d'aller de l'avant. Et malheureusement, cet épisode, qui est complètement débile, j'ai la notion de je filme un film avec ma caméra et je retransmets ça, c'est complètement interdit par eux-mêmes. Donc c'est complètement débile qu'ils essaient de limiter, une fois de plus, la distribution électronique de la musique, de la vidéo, etc. Parce qu'in fine, c'est ça. Ils veulent pas que les gens puissent facilement prendre un CD ou un DVD et le copier sur leur disque et ensuite le balancer sur les réseaux peer-to-peer. Donc ils essaient petit à petit de démonter la chaîne qui amène ces trucs-là sur Internet en mettant des restrictions qui sont complètement, complètement débiles.
Ouais. Ils sont en train de se tirer Pardon, vas-y.
Oui, et la remarque que je faisais par rapport à World Foreign, c'est le pourcentage de gens qui ont accédé au film en pirate est tellement limité par rapport au succès du film. Peut-être que tu peux dire il y a 500 000 dollars ou 750 000 dollars qui n'ont pas été faits parce que des pirates y ont eu accès et donc ils n'ont pas été au ciné. Mais la démographie est tellement différente que le film était bon, il a eu du succès et puis voilà, il n'y a pas eu d'impact par la piraterie à mon sens.
Je vais quand même essayer de me faire l'avocat du diable par rapport à ce que tu disais, Patrick, sur le fair use qui consiste finalement à dire que à partir du moment où j'ai acheté un DVD ou un CD, j'ai le droit d'avoir une copie. Je pense que ça c'était valable à l'époque des cassettes ou à l'époque où Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Parce que le problème c'est pas le fait que tu en fasses une copie privée, c'est que à partir du moment où tu vas matérialiser cette œuvre sur ton disque, ben ça pourra très facilement se retrouver sur un truc comme Emule ou etc. Et c'est ça en fait qui leur pose problème. Si jamais le real DVD là dont ils parlent permettait à l'utilisateur de faire un backup, mais que le backup était sécurisé, il ne pouvait en aucun cas transiter sur un réseau peer-to-peer, je pense qu'il y aurait peut-être pas tout ce débat. Je pense que ce qui les dérange, c'est qu'après ça peut atterrir sur du réseau peer-to-peer. C'est peut-être ça le problème.
Oui, c'est certain. D'ailleurs, Jeff l'a évoqué rapidement. C'est le fond du problème, c'est celui-là. Et moi, ce que je répondrais à cet argument qui peut être compréhensible, c'est que de toute façon, les films et les produits en question vont se retrouver sur les réseaux peer-to-peer. Donc, encore une fois, comme on le dit à chaque fois dans ce genre de problème, les seules personnes qui vont avoir que ça va ennuyer ce genre d'histoire, ce sont les gens qui veulent être des clients honnêtes et qui vont payer leurs films. Parce que c'est pas en interdisant Real DVD en l'occurrence qu'ils vont réussir à interdire l'arrivée des films sur les réseaux de pirates. C'est impossible. Donc le résultat, si on veut parler très concrètement, c'est que les gens qui ont acheté le DVD et qui veulent simplement le mettre sur leur ordinateur comme... moi, je veux dire, ça fait des années que j'ai plus mis un DVD dans mon ordinateur, ou un CD en l'occurrence. Je veux dire, je le mets une fois, je le mets sur mon disque dur et je le laisse sur mon étagère jusqu'à la fin des temps parce que c'est plus pratique. Et,
bien sûr.
Donc bon, effectivement, je comprends cet argument, mais si on veut être un petit peu raisonnable, pour le coup, les gens ne l'utilisent plus comme ça. Enfin, bon, on continue dans les histoires de piratage avec Adopi, sur lequel je ne vais pas passer énormément de temps parce que c'est vrai qu'on en a quand même parlé beaucoup ces dernières semaines et ça commence à devenir un petit peu répétitif. Par contre, il y a une histoire assez hallucinante, là encore, qui est arrivée il y a quelques semaines. Yann, peut-être que tu en as entendu parler précisément, tu veux nous prendre ce sujet ?
Ouais, rapidement en fait, il s'agit d'un truc qui est passé sur tous les sites parlant de technologie dans la communauté francophone, enfin surtout en France. C'est que Jérôme Bourreau, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui travaille chez TF1 dans le pôle innovation web, ben en fait il a rédigé un email qui était pas du tout en faveur d'Adopi. Il a envoyé ça donc à un député de son arrondissement, Françoise de Panafieux, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé
il l'a envoyé à titre, pour préciser, il l'a envoyé à titre privé, pas en tant que webmaster de TF1.
C'était absolument
vraiment en tant qu'individu, en tant que citoyen, quoi.
Absolument, absolument. Et en fait, il y a eu plus ou moins cafouillage. Enfin, les choses sont pas encore très très claires. Mais ce qui s'est passé finalement, c'est que cet email est revenu est remonté donc jusqu'au gouvernement, jusqu'à Christine Albanel, et c'est retourné au niveau de TF1, mais sous une forme publique. Et ça a eu pour effet que TF1 a décidé de licencier cette personne immédiatement. Et donc c'est totalement incroyable, puisque on se dit finalement qu'on a pas le droit à une expression. Quand, quand la France, finalement, dit, essaie de donner des leçons de droits de l'homme à la Chine et qu'on se rend compte, finalement, que l'une des premières chaînes françaises qu'on a un employé qui, à titre privé, comme tu le disais, essaie d'exprimer son, son avis en tant que citoyen sur, sur son point de vue sur une loi et qu'on voit directement que ça porte atteinte à son emploi et qu'on le licencie immédiatement, on peut être un peu choqué de voir que, finalement, une chaîne télévisée est quand même très 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 liée à la direction que prend le gouvernement. Et c'est, moi personnellement, ça m'a pas mal choqué, quoi.
Mais il avait envoyé cet email depuis son email perso ou depuis son email TF1?
Depuis son email perso. C'était fait à titre entièrement privé et le plus surprenant dans l'histoire, en fait, c'est outre le fait qu'il se soit fait virer, qui est déjà assez scandaleux, c'est le fait que son email se soit retrouvé, en fait il s'est fait convoquer dans le bureau de son supérieur direct, et son supérieur lui a lu l'email et il lui a dit voilà, suite à cet email, nous constatons que nous avons des différences philosophiques ou des différences d'opinion qui font qu'il y a une incompatibilité entre notre intention commerciale et vos opinions, et donc on peut plus travailler avec vous.
On dirait Fox News, en fait.
C'est un petit peu ça.
Et le Gus a attaqué TF1 au prud'homme ?
On ne sait pas encore. J'imagine qu'il va le faire. Pour le moment, on en est à l'étape du scandale et à l'étape du cafouillage, parce que alors Albanel dit que évidemment, ce n'était pas son intention de faire virer le mec. Elle dit qu'elle voulait simplement avoir un argumentaire de la part de TF1. Mais enfin, admettons même que ça soit le cas. Comment se donne-t-elle l'autorisation d'envoyer un mail privé à TF1? Enfin. Et bref, ils sont tous en train de nier. Le TF1 est en train de dire que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Enfin, il y a un gros cafouillage là-dedans. Le Jérôme Bourreau-Guggenheim, justement, qui était le responsable du pôle innovation web, comme l'a dit Yann, a raconté cette histoire. Moi, je ne vois pas vraiment de raison qu'il mente. Évidemment, on n'est pas journaliste. Hein. C'est comme ça que l'histoire a été rapportée dans tous les médias sur le web. Est-ce que ça va donner autre chose ensuite? On ne sait pas. Mais en l'état, moi, cette histoire me paraît effectivement totalement scandaleuse. Hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et je crois que Yann l'a assez bien résumé, donc je ne vais pas en mettre une couche. Mais ça passerait mal aux États-Unis, j'ai l'impression, un truc comme ça. Encore que, remarque, comme disait Yann, il y a Fox qui a fait un petit peu ça à l'époque. Mais...
Ouais. Oui, il y a toujours la problématique du free speech, etc. Mais enfin, si c'est un citoyen qui exprime son point de vue... auprès du politique et que ça revient du côté de la boîte, même si ici c'est beaucoup plus facile de virer les gens, etc., etc., c'est le genre de choses qui pourraient passer très très mal, oui.
Ouais. Bon, bah, espérons que cette histoire ne s'arrête pas là et qu'on ait des nouvelles de monsieur Bourreau-Guggenheim très vite. Une autre histoire, c'est le Kindle dont on vous a déjà beaucoup parlé ici. Donc, le Kindle, c'est cet e-book reader, ce lecteur de livres électroniques fabriqué par Amazon, le fameux Jeff Bezos qui a beaucoup poussé à la fabrication de cet appareil. Il y a une nouvelle version du Kindle qui a été présentée. C'est une machine qui est plus grande. Ça s'appelle le Kindle DX. Alors, je ne sais pas d'où sort le DX, mais en tout cas, c'est son nom. Hein. Ça doit être...
Display Extended.
Ah, c'est ça en plus. Pas bête, heureusement.
J'en sais rien, c'est moi qui viens juste de l'inventer, mais ça pourrait être logique.
Ça pourrait ouais, être je ça, pense ouais. que ça le fait, effectivement. Donc, il est baptisé maintenant, c'est Display Extended. Donc, il est plus grand. Son écran fait 9,7 pouces de diagonale, ce qui fait 24 cm. Il a un accéléromètre, ce qui veut dire qu'on peut le retourner comme l'iPhone et avoir l'affichage en paysage ou en portrait. Et les grosses nouveautés au niveau du modèle économique, il y en a deux en fait. La première, c'est que il est fourni avec il est disponible pour ce Kindle un abonnement au Wall Street Journal pour $10 par mois. Il y avait déjà des abonnements à certains journaux. Je ne sais pas si le Wall Street Journal en faisait partie, mais en tout cas là, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment mis en avant pour ce Kindle en particulier. Et l'autre nouveauté qui est, a là beaucoup plus de mal à passer, c'est le prix, c'est-à-dire qu'il coûte $489, c'est-à-dire presque $200 de plus que le Kindle d'origine. Pardon, presque $100 de plus que le Kindle d'origine. Il est à 399, si je ne m'abuse. Jeff, tu sauras peut-être ça mieux que moi.
Non, parce que j'ai pas de Kindle.
D'accord.
Mais je crois que c'est effectivement 100 ou 200 dollars de plus.
Ouais.
Mais c'est pas non plus la même machine. Hein. C'est pas le même form factor. Tu vas pas pouvoir faire la même chose dessus.
Pour toi, ça te paraît pas. En fait, les commentaires que j'ai entendus, moi, c'était que justement, il était beaucoup trop cher, en fait. Les gens étaient un petit peu rebutés parce que déjà, ils trouvaient le Kindle originel assez cher. Et là, ils pouvaient accepter. Pardon, c'est bien 299, hein, donc c'est deux fois plus cher. Presque deux fois plus cher, en tout cas $200 de plus. Les gens qui acceptaient de payer un gros prix pour le premier Kindle se disent là, c'est carrément trop. Et ça n'est pas abordable. Toi, Jeff, tu trouves que ça les vaut ? Ça vaut $500 ce truc ?
Écoute, j'ai pas acheté de Kindle le premier et je ne pense pas acheter de Kindle le deuxième. Et d'ailleurs, j'ai dit que ça m'intéressait pas de l'avoir pour la fête des pères parce que personnellement, je suis très content d'avoir mes ordinateurs pour lire les news online. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un outil dédié. J'ai des copains qui ont dit qu'ils achetaient le nouveau parce qu'ils étaient vraiment très contents de la nouvelle forme qui permettait d'avoir une plus grande lisibilité du contenu. Bon, c'est des gens pour qui dépenser $200 de plus, c'est pas forcément un problème, donc c'est peut-être pas forcément la bonne population. Quoi.
Ouais, c'est sûr. Disons que c'est pas. Il est certain que ça va pas. Ouais, ça va pas arriver dans le grand public immédiatement. Ceci dit, ils ont fait une grosse poussée vers les étudiants en se disant que ça pouvait être utilisé comme livre pour les étudiants. Et ça pose deux problèmes en fait à ce niveau-là, c'est que aux États-Unis, les livres d'université sont horriblement chers. C'est-à-dire qu'on parle de tarifs du type $250 pour un livre de biologie à l'université, c'est un racket invraisemblable. Et les étudiants se refont généralement en revendant les livres qu'ils vont acheter ensuite d'occasion. Et là, évidemment, avec le Kindle, ils pourront plus le revendre. Donc, est-ce que les éditeurs vont également mettre des prix invraisemblables sur ces livres électroniques ou est-ce qu'ils vont baisser le prix justement parce que ce sont des livres électroniques et que blablabla. On ne sait pas. Il y a quelques inconnus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prix est la grosse, grosse question aujourd'hui de ce Kindle qui pourrait faire avancer les choses plus vite qu'on ne le pensait parce que ce nouveau format est peut-être plus agréable pour lire un journal ou ce genre de choses. Et Yann, on t'a un petit peu coupé la parole juste avant. Tu avais des choses à dire ?
Non, enfin, je me disais juste que le Kindle, quand même, c'est un écran 9 pouces, monochrome, une carte mémoire de 3 gigas et une puce 3G. Faudra qu'on m'explique quand même comment on peut mettre $499 derrière ça. C'est pas grand chose. C'est le prix d'une PS3 quand même, hein. Faut relativiser le truc. Et je trouve ça vraiment excessivement cher. Déjà que le premier modèle, je trouvais super cher pour ce que c'est. Mais là, en l'occurrence, 3 gigas de RAM, un truc où tu peux, là encore, une fois de plus, tu ne possèdes pas le média que tu as acheté, c'est-à-dire que tu prenais l'exemple des livres, là, aucun étudiant ne pourra finalement vendre le livre qu'il a acheté à une autre personne. On aurait pu imaginer qu'il puisse le transférer, que je sais pas moi, qu'Amazon prenne 10% de la transaction et que lui il puisse en récupérer un petit peu. Enfin, on peut imaginer des modèles économiques derrière ça, mais non, une fois de plus, tout passe par le provider et c'est vraiment dommage, quoi. Donc je ne suis vraiment pas friand de ce genre de.
Oui, mais je pense que si tu as la notion, et à mon avis, ce que va faire Amazon, c'est essayer de négocier avec les éditeurs de livres un droit d'accès au livre qui va être largement inférieur au coût du livre lui-même, de manière à ce que ce soit un petit peu, un peu comme le Wall Street Journal, si tu l'as à $10 par mois, c'est rien par rapport au prix, au coût du Wall Street Journal, le journal que tu achètes en kiosque chaque jour, même si tu prends un abonnement.
Ouais, donc, mais c'est le prix du Wall Street Journal, mais quand tu achètes un bouquin sur Amazon, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, c'est le même prix entre un bouquin d'Amazon et un bouquin sur le Kindle.
Ou à non, ils sont moins chers sur le Kindle. Ils sont un peu moins chers, mais disons que la réduction du prix ne reflète pas la réduction dans les tarifs de fabrication et d'acheminement et de production, etc. La réduction n'est pas si significative que ça, mais ils sont quand même moins chers.
Ouais, cache ça derrière frais de mise en service. Voilà. Ouais. Ils aiment bien ce genre de trucs bateau.
Il faut quand même spécifier, Yann, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, le Kindle, Amazon fait un profit dessus. D'un autre côté, il y a quand même aussi le fait qu'il faut payer l'abonnement au réseau téléphonique, puisqu'on vous le rappelle, avec le Kindle, vous pouvez télécharger les livres directement depuis les nuages, depuis Internet, sans avoir à vous connecter où que ce soit. Et donc il faut aussi payer cet abonnement pour au réseau téléphonique. Ça compte un petit peu aussi, quoi.
Ouais.
T'es pas convaincu?
Non, franchement. Combien de livres il va falloir que tu achètes avec ce service pour pouvoir amortir les $489? Et d'ici à ce que tu as amorti ces $489, ils auront déjà sorti de nouvelles versions des livres qui, comme par hasard, ne seront pas compatibles avec ton Kindle que tu as passé 2 ans à amortir. Il va falloir que tu rachètes un nouveau modèle. Enfin, ça, tu l'as déjà vu plein de fois. Enfin, bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais non. Ouais, non.
Bon, il est remonté, Yann, sur ce coup.
ouais, mais Yann, je pense que t'es pas dans la cible des gens qui achètent très naturellement le Kindle, et donc c'est pour ça que tu as une réaction assez hot, comme on dit, mais il y a une population de gens qui aiment beaucoup avoir leur Kindle, sur lequel ils vont trouver les dernières versions du journal qu'ils veulent lire, du bouquin qu'ils sont en train de lire, etc. Plutôt que de se trimballer 3 bouquins dans leur sac, ils vont avoir un Kindle et ils sont très contents. Et quand tu vois le succès commercial du Kindle, tu vois qu'Amazon a réussi à créer un besoin au niveau du marché en introduisant ce produit et en vendant des milliers, des milliers, des milliers.
C'est sûr qu'ils sont, c'est un succès commercial incroyable. Il y a énormément de gens qui sont d'accord sur le fait que avant que le Kindle ne puisse avoir une audience véritablement large, il va falloir que le prix baisse. Par contre, il y a un chiffre qui est sorti justement à propos du marché de l'écosystème du Kindle qui était assez surprenant. C'est que quand un livre, aujourd'hui, hein, 18 mois après la sortie du Kindle, si un livre est disponible en vente classique sur Amazon, qui est l'une des plus grosses librairies des États-Unis aujourd'hui, hein, je ne sais pas quel est l'état de la vente en ligne de livres en France aujourd'hui, mais aux États-Unis, Amazon est une énorme machine, ils vendent de tout, mais le livre reste leur business principal. Donc, quand un livre est disponible en version papier et en version Kindle, eh bien, aujourd'hui, la version Kindle représente 35% des ventes de ce livre, ce qui est énorme, complètement énorme, quoi. En seulement 18 mois, et avec, même s'ils ont vendu beaucoup de Kindle, ça reste un gadget réservé à une certaine classe de la population, 18% de ventes sur le Kindle, c'est véritablement une progression fulgurante, et il est à peu près certain que c'est un succès pour Jeff Bezos et pour Amazon, et que on peut très facilement imaginer que dans cette lignée, ça va continuer à révolutionner l'industrie. En tout cas, initier une révolution de l'industrie du livre et peut-être même de la presse, comme on l'avait dit il y a quelques temps.
Je ne veux pas dire, mais en même temps, dans la chatroom, je vois écrit « Yann a raison, Yann a raison, Yann a raison ». D'ailleurs, je propose, par rapport à l'autre épisode qu'on appelle cet épisode « Yann a raison pour une fois ». Non, mais je comprends bien ton point de vue, je comprends bien ton point de vue. Hein.
D'accord. Et Jeff, on t'a interrompu là aussi ?
Non, ce que j'allais dire, c'est que le jour où le Kindle est distribué de façon encore plus large qu'aujourd'hui, effectivement, Amazon pourra aller voir les publishers et dire « J'ai une base installée de X centaines de milliers ou de millions de Kindle. Si on passe un deal qui vous permet d'accéder à cette nouvelle base installée avec un service à la base de souscription, je suis sûr qu'ils auront la possibilité de créer un nouveau modèle économique autour des bouquins, autour des journaux qui n'existent pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore une pénétration suffisante. »
Oui, c'est sûr. Bah, c'est en tout cas dans ce sens que semble aller l'histoire, dis-je avec une grande modestie.
Avec le grand mouvement en plus, voilà, qui va avec.
Je veux dire, moi, le parallèle que je veux établir, qui n'a rien à voir avec le Kindle, mais qui est relatif au Amazon Web Services, c'est quand Amazon a mis en place S3 et EC2, leurs deux plateformes web services, personne ne les utilisait par définition et tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qu'Amazon qui est un distributeur se met à faire de l'infrastructure, internet, etc. C'est n'importe quoi. 3 ans plus tard, si une start-up vient me voir et qu'ils n'utilisent pas les services d'Amazon dans le cloud et qu'ils ont leur propre serveur et leur infrastructure, on leur demande à quoi ils pensent. Donc on a aujourd'hui 90 à 95% des boîtes qui utilisent ces services-là au tout début de leur vie. Après, est-ce qu'ils ont un choix de partir sur leur propre infrastructure ou pas quand ils deviennent plus grands et plus mûrs, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ils se sont installés en 3 ans comme étant les rois de ce marché.
Et là, on n'en est qu'à la moitié de ces 3 ans pour le Kindle, et déjà, ça fait beaucoup de bruit. Donc, où en seront-ils dans 1 an et demi? Ça laisse rêveur, je dis.
Tout à fait.
Autre chose, c'est ces histoires de conditions d'utilisation dont on vous avait déjà parlé pour de ces choses-là pour Facebook. Et on est souvent un petit peu critique parce qu'on dit que les conditions d'utilisation sont un petit peu draconiennes, où on vous dit voilà, ils ont le droit d'utiliser vos photos, vos images, vos textes, vos tout jusqu'à la fin des temps, même si vous êtes mort, même si vous êtes enterré, même si vos enfants sont morts. Et ben, il se trouve que de temps en temps, on comprend pourquoi les choses sont aussi radicales. Il y a eu un petit incident sur l'île de Man, qui est une île au large de l'Angleterre, où il y avait un groupe Facebook qui avait été créé. Enfin, un groupe Facebook avait été créé par l'un de ses habitants, et c'était le groupe Facebook s'appelait I Love Man KKK, donc Ku Klux Klan, pardon, qui était un groupe qui voulait promouvoir la sauvegarde de l'île de Man par l'exclusion des étrangers et la supériorité des habitants de l'île de Man, qui sont évidemment en majorité de race blanche, et ils voulaient préserver la pureté de la population. Évidemment, Facebook a vu ça, ils ont agi assez rapidement, ils ont fermé ce groupe, parce que selon la loi anglaise, le groupe en question, la loi royaume-unienne, ce groupe est illégal. Là, je pense qu'on ne trouvera personne pour critiquer cette décision. Par contre, ça pose un problème, et ça pose une question qui est un petit peu plus délicate, qui est, est-ce que Facebook peut avoir la responsabilité de décider quel groupe ils ont le droit de fermer et quel groupe ils n'ont pas le droit de fermer? Je vais donner un exemple. S'il y a un exemple qu'on connaît dans toutes les parties d'Internet, s'il y a par exemple un groupe Facebook qui est créé en Chine par des gens qui sont, disons, fans de Barack Obama ou j'en sais rien, hein, un truc du genre, et que la Chine demande à Facebook de fermer ce groupe, eh ben, ils vont peut-être le faire, peut-être pas, mais en tout cas, ils auront la possibilité de le faire. Mais la question, est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce qu'il faut laisser la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme diraient certains? Ou est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut tout accepter? Ou est-ce qu'il faut réguler? C'est une question intéressante à poser, d'autant plus que un avocat qui s'appelle Brian Cuban a fait une lettre ouverte à Facebook en disant que ça faisait 2 ans qu'il demandait la fermeture de 2 groupes négationnistes américains et qu'il ne l'a pas obtenu. Donc là encore, ça pose une question, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, est-ce qu'on doit tout fermer?
Je sais pas, parce que moi je me souviens qu'il y a, je sais pas, peut-être 5 ou 6 ans, il y avait une scène que j'avais vue dans le zapping qui m'avait assez choqué. C'était une manif du KKK, justement en plein Manhattan, à midi. Ils étaient encerclés par des flics, quoi, mais ils étaient en train de faire leur manifestation. Et bon, moi ça m'avait assez surpris, quoi, puisque c'est là que j'ai réalisé qu'apparemment, donc aux États-Unis, t'as une sorte de constitution qui permet à tout un chacun de s'exprimer, exprimer ses idéologies, quoi, aussi sordide soit-elle. Et donc, du coup, s'il y a au-delà de Facebook une loi ou une constitution américaine qui permet à tout le monde de s'exprimer, vu que Facebook est un moyen d'expression comme un autre, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas eu qu'il n'a pas obtenu satisfaction dans la fermeture de ce groupe. Enfin, c'est juste un truc comme ça qui me vient à l'esprit.
Oui, c'est
oui, complètement. C'est free speech, c'est-à-dire que suivant la Constitution américaine, toute personne a le droit de s'exprimer de façon libre, même si c'est dans des contextes aussi dégueulasses que ce qu'on mentionnait ici. Et donc, le gros débat, c'est pour Facebook, où se situe la ligne qu'ils ne veulent pas franchir en termes de désapprouver et donc d'interdire certains groupes. L'exemple que citait Mike Harrington ce week-end sur ce sujet-là, c'était on va interdire les groupes qui parlent de la lactation parce qu'on va avoir un sein nu qui va être utilisé dans le cadre une photo d'un seins nu qui va être utilisée dans le cadre de cette discussion. Mais par contre, renier le low cost, bah, c'est quelque chose qui va être permis. Et clairement, il avait une grosse rant autour de ça qui a provoqué énormément de commentaires et ça a été repris ensuite par pas mal de publications. Mais c'est vrai que c'est un gros problème pour Facebook parce que s'ils interdisent ça, quels sont les sujets qu'ils vont aussi devoir bannir ? Et c'est pas à eux de se positionner comme une comme des gens qui vont établir ce qui est
légal
bon
ou pas,
finalement. Ou pas bon, légal ou pas. Parce qu'au regard de la Constitution américaine, c'est légal.
Oui. Ah, c'est un problème épineux. D'ailleurs, à propos de questions légales, il y a eu un autre souci de vie privée qui est un petit peu associé à cette histoire. Il y a un type qui a été mis en garde à vue pour un SMS, parce qu'il a envoyé un SMS à un ami à lui en disant « Pour faire dérailler un train, tu as une solution ?» Eh ben, les flics ont débarqué chez lui et ils l'ont carrément arrêté. Enfin, ils l'ont mis en garde à vue. C'était un SMS qui avait été envoyé sur le réseau de Bouygues Télécom. Et la grosse question que ça pose.
Ah, la pub en que fait, tu leur fais.
Ouais, voilà, c'est un petit peu. Écoute, j'y peux rien. Hein, ça s'est passé comme ça. La grosse question qui se pose là encore, c'est comment est-ce que la police a eu connaissance de ce message ? Parce que là encore, je crois que personne ne n'ira dire, ben non, le gars, il va envoyer ce message et il faut l'ignorer. Tu vois, bon, effectivement, c'est très certainement une blague. Mais est-ce qu'il faut pas au moins lui poser la question ou aller le voir ou parce que si jamais on sait au final, je suis sûr que certaines personnes vont dire, non, état policier, scandale, je sais pas quoi. Le problème, c'est que si ce gars est effectivement, malgré les apparences, n'est pas un blagueur et qu'il a effectivement l'intention de faire dérailler un train, qu'il met son fantasme à exécution et qu'on se rend compte après coup qu'il avait envoyé des SMS pour ou qu'il avait eu des communications pour dire pour établir ce plan, oui, là, ça posera un énorme problème aussi. On va se demander, mais que fait la police ? Maintenant, la grosse question, effectivement, c'est oui, si on en a connaissance, il faut agir. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'en avoir connaissance ? Parce que d'où est-ce que la police a eu accès à ce SMS, quoi ? Est-ce que tous nos SMS sont épiés par une sorte de réseau national de surveillance des télécommunications ?
C'est sûrement la même équipe qui avait pistonné VSD en leur disant que Sarkozy avait envoyé un texto à Cécilia pour lui demander de revenir. Je suis sûr que c'est la même équipe en plus.
C'est possible, ouais. Il y a la DGSE qui fait des petits écarts pour arrondir ses fins de mois.
Ouais. Non, mais moi, honnêtement, je pense que tout ça, ce serait jamais passé si jamais ces gens-là utilisaient plutôt Adium au lieu de passer par des SMS. Adium, il n'y a que ça de vrai. Et d'ailleurs, en parlant de ce client, il y a un truc d'assez incroyable qui s'est passé récemment, là. C'est que, alors, pour ceux qui ne savent pas, les auditeurs qui ne connaissent pas ce logiciel, il s'agit d'un client de messagerie instantanée, un petit peu comme MSN Messenger, qui a beaucoup de succès sur macOS, d'ailleurs. Et il y a une nouvelle version qui est sortie récemment, enfin qui est en bêta test. Et pendant qu'ils étaient en train de bêta tester donc le produit, ils se sont rendu compte que parmi les gens qui se connectaient au client, il y avait des clients qui se connectaient à partir d'une machine dont la description était MacBook Mini.
Parce qu'il faut savoir que tous les ordinateurs qui se connectent à la plupart des réseaux, même par le navigateur, envoient des informations au service auquel ils se connectent. Donc, ouais. L'une des informations, c'est le nom de l'ordinateur. Souvent, c'est PC, enfin MacBook Pro, PC portable, HP machin. Et là, c'était MacBook Mini.
Ouais, tout à fait. Et donc, vu qu'il n'y a aucun MacBook Mini de disponible sur le marché, donc tout le monde se dit que Apple est en train de construire donc une bécane de ce type. Et donc, il y a toutes les rumeurs les plus folles qui tournent autour de tout ça. Et c'est en contradiction un petit peu avec ce que Apple dit depuis, enfin, le discours que tient Apple depuis à peu près plusieurs semaines maintenant, comme quoi ils ne sont pas du tout intéressés par ce marché, puisque construire un MacBook bas de gamme, c'est... Dans ces prix-là, plutôt de 300-400 euros, ça va forcément induire un produit bas de gamme. Et Apple ne souhaite pas s'acoquiner avec le bas de gamme. Et donc c'est un petit peu en contradiction avec tout ça, quoi. Donc
et il faut savoir qu'à chaque fois qu'Apple nie formellement quelque chose, on le voit arriver au bout dans les 6 mois, quoi. Donc là, on est à peu près dans la...
C'est bien
comme le Mac Mini qui ne peut pas exister.
Voilà, exactement. Ils ont dit très clairement, non, non, jamais de la vie. Je pense que pour le retour de Steve Jobs, qui d'ailleurs est toujours prévu, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le retour de Steve Jobs peut-être en juin, à la tête d'Apple, il n'est pas impossible qu'on ait une conférence avec l'annonce d'un nouvel iPhone et peut-être d'un Mac Mini, une sorte de netbook Mac, qui était un peu improbable.
Il paraît que Microsoft aussi prépare son téléphone d'ici 2010. Il y a des rumeurs autour de ça, non?
Oui, on a entendu en fait des rumeurs qui venaient de chez Verizon, qui est l'un des opérateurs de téléphonie aux États-Unis, selon lesquels Microsoft préparerait son propre téléphone. On sait évidemment qu'ils font un système d'exploitation nommé Windows Mobile, qui est lamentable. Enfin, j'ai essayé il n'y a pas longtemps, mais bref, je ne veux pas m'étendre là-dessus, ça fait mal. Et donc, ils prépareraient leur propre téléphone, qui serait une sorte de Zoom Phone ou de téléphone lecteur MP3, on ne sait pas trop. Est-ce que vous... Tiens, Yann, je sais que tu sais, mais Jeff, est-ce que tu connais le nom de code qu'ils ont donné à ce téléphone?
Non, mais j'ai déjà peur.
Ils l'appellent Pink. C'est le téléphone Pink. C'est mignon, non?
Oh God.
Voilà. Ouais.
D'ailleurs, je voulais juste te dire, Windows Mobile, avant que j'ai un iPhone, c'était ce que j'utilisais sur mon HTC. Et en fait, ça marchait pas mal. Oh. Si tu es un utilisateur qui fait beaucoup d'emails,
il n'utilise pas. Bon,
non, j'utilisais beaucoup. C'était un bon téléphone. C'était un OS OK.
C'est bien d'avoir une personne qui défend les causes perdues quand même dans l'équipe.
Non, franchement.
Il faut dire, je devais être le seul VC de la vallée à avoir un téléphone Windows Mobile parce que tout le monde avait des Crackberry ici. Mais bon, c'est pas grave.
Oui, c'est vrai. Une autre information sur le téléphone, c'est qu'aux États-Unis, pour la première fois, il y a plus de foyers qui n'ont que des téléphones portables par rapport aux foyers qui n'ont que des téléphones fixes. Donc, à peu près 60% des foyers des États-Unis ont les deux, téléphones fixes et téléphones portables, mais il n'y a que 17% de foyers qui n'ont que des téléphones fixes contre 20% de foyers qui n'ont que des téléphones portables. Donc, la progression des portables continue de manière inexorable. Et la dernière nouvelle qu'on a pour ces informations sur les machines portables, c'est encore une rumeur, mais qui, elle aussi, pourrait se révéler vrai, en tout cas qu'il y a des fondements assez solides. C'est pour ça qu'on l'a pas mis dans la partie vraiment rumeur. C'est la transition du système d'exploitation pour téléphone portable de Google, qui s'appelle Android, comme vous le savez tous, donc le Google Phone, ce fameux. Cette transition qui pourrait se faire vers les netbooks aussi. Il pourrait y avoir un netbook sous système Google, dont Eric Schmidt a dit que ça serait vraiment dédié au cloud, au nuage, c'est-à-dire qu'il y aurait très très peu d'applications en local et une majorité d'applications accessibles comme depuis le net, comme Google Docs, Google Calendar, etc., etc., etc. Jeff, tu serais client d'un truc comme ça, d'un client super léger en portable? Je laisse Yann pour la fin à ce propos parce que je sais qu'il qu'il est remonté. Tu serais client d'un petit truc hyper léger avec qui accéderait à tout sur le net, ou ça te dit pas trop?
Écoute, j'ai joué un petit peu avec quelques netbooks au début. Le problème, c'est que en version Windows, c'est clairement pas assez rapide, c'est beaucoup trop lent, etc. Il y a 3 ou 4 boîtes qui sont en train de développer des OS spécifiques pour le netbook. Tariq Krim, qui était le fondateur de NetVibes, développe en France une boîte qui s'appelle Jolly Cloud, qui est un OS Linux qui a été redéveloppé pour avoir les quelques applications clés entre l'email, l'IM, etc. Et donc qui est beaucoup plus rapide. Donc j'ai joué un peu avec quand on s'est vu la dernière fois. Je suis pas convaincu du besoin d'avoir une machine entre
bien.
L'iPhone qui va vraiment être très puissant, qui va te permettre de faire pas mal de choses, et puis bah mon Mac qui est connecté à ma appareil vidéo à internet tout le temps. Donc je suis pas convaincu d'avoir un besoin d'une toute petite machine que je peux trimballer, sachant que bah, j'ai mon Mac avec moi tout le temps, quoi.
La chatroom a l'air d'être relativement d'accord avec toi. Ils disent non, c'est ridicule. Je crois que c'est de ça qu'ils parlent, j'espère.
Oui, c'est ça.
D'accord. Bon, donc Yann, je te pose la question, mais je connais déjà la réponse pour toi.
Non, mais honnêtement, si jamais je... Un netbook, à la base, c'est un outil mobile. qui dit mobilité dit que dans bien des situations, je n'aurais pas forcément un réseau internet à disposition. J'avais pas forcément un wifi ou un 3G disponible. Et si pour éditer mon CV ou travailler sur mon rapport, ben, je peux pas l'éditer parce que justement, j'ai pas accès à google.com, ça m'avance pas très très loin.
Il y a Google Gears qui te permet de l'éditer, même si tu n'as pas de réseau et de remettre à jour une fois que tu as un réseau.
Ouais, franchement, je préfère un bon client lourd qui marche très très bien et qui
irréductible le Yann.
Bah oui.
Irréductible.
Non, je dis juste que le cloud c'est bien, mais pas dans toutes les configurations et dans celle-là, c'est pas intéressant. Voilà.
D'accord.
L'exemple que donnait Ryan Block, qui était l'éditeur d'Engadget, c'était qu'ils utilisaient le netbook à la maison comme petit ordinateur d'appoint. Dans la cuisine, par exemple, quand tu...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ils faisaient un peu de cuisine et qui ils accédaient aux recettes au travers du netbook.
Ouais.
Je suis pas super convaincu
Ryan et Véronica, donc Ryan Block et Véronica Belmonte qui vivent ensemble, qui sont assez connus dans l'univers de la tech aux États-Unis. C'est quand même un couple particulier, hein. Ils ont un netbook dans la cuisine, un iPod Touch devant la télé pour le cas où ils ont besoin de regarder quelque chose. Pendant qu'ils regardent la télé, ils ont leur iPod Touch juste devant pour pouvoir gérer les choses. C'est vrai que bon, c'est pas le meilleur exemple, mais à vrai dire, peut-être même de l'autre côté, comme tu le dis, Jeff, si même eux, ils ne réussissent pas à trouver une autre utilisation à un netbook que le fait de regarder les recettes dans la cuisine quand ils sont en train de cuisiner,
c'est exactement la remarque de Peter Rojas, donc Peter et
l'autre
et Ryan font une nouvelle boîte, ouais. Voilà, GTDT, et donc c'était, bah, si c'est ça ton utilisation, c'est exactement ce que je disais, ça sert à rien.
Ouais, en même temps, ça peut faire un petit peu film futuriste où tu as ton netbook accroché à ton frigo et tu as toutes sortes d'informations intéressantes là-dessus. Sauf que là, le netbook est accroché avec un petit rouleau de scotch qui le fixe au frigo puisque c'est pas intégré.
À ce moment-là, autant t'acheter un ordinateur qui relie à Internet ou tu as un vrai ordinateur dans le frigo.
Sans doute. Et je pense que la FTC, donc la Federal Trading Commission, c'est bien ça ?
Federal Trade Commission.
Est assez d'accord avec cette animosité envers Google parce qu'ils sont en train d'ouvrir une enquête sur Apple et Google pour des questions de monopole. Parce qu'il y a une situation un petit peu surprenante. Mais en fait, ce n'est pas une question de monopole. Pardon ?
Quel monopole ?
Eh ben, je vais vous expliquer en fait. Ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que Eric Schmidt, qui comme vous le savez est l'un des fondateurs de Google, est également au board de Apple. Donc, il est à la fois chez Apple et chez Google, et il se trouve qu'ils ont d'énormes intérêts dans le marché du téléphone. Donc, il pourrait y avoir des problèmes de collusion dans ces domaines-là. Il y a aussi une autre personne que je ne connaissais pas, par contre, qui s'appelle Arthur Livingstone, qui est le président de Genentech Inc. Mais le cas le plus intéressant, c'est celui de Eric Schmidt, qui se récusait déjà des discussions sur l'iPhone, parce que lui, il a un intérêt dans le marché du téléphone portable. Mais visiblement, la FTC n'est peut-être pas satisfaite de cette situation et est en train d'ouvrir une enquête pour des problèmes de monopole et de collusion. Et dans ce cas-là, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'ils font, quoi? Est-ce qu'ils vont demander à Eric Schmidt de ne plus être au board d'Apple? Enfin, c'est quand même des choses importantes dans ce domaine. Et puis, on ne sait pas. C'est
non, mais à ce moment-là, ce sera Schmidt qui démissionnera du board. D'ailleurs, Schmidt a été embauché par Google 3 ans après que la boîte a été créée, c'était pas exactement un des fondateurs. Pendant un an, ils ont essayé de trouver un CEO et ça a été un Dallas local de savoir qui était approché par Google et qui ne réussissait pas les tests, puisqu'en fait ils essayaient de faire passer des tests à leur candidat CEO. Dans ce cadre-là, ce que ferait Schmidt, c'est quitter. Mais c'est vrai que quand on pense à la partie centrale que représente l'iPhone aujourd'hui chez Apple, ça veut dire que Schmidt va sûrement s'excuser pour la moitié d'un board meeting.
Ouais.
C'est un peu ridicule, quoi.
Oui, pardon, vas-y.
Non, je disais qu'en plus, il n'y a pas que la FTC qui s'intéresse au problème de monopole. Il y a aussi Microsoft et Sony qui n'ont pas l'intention de laisser Nintendo avec le monopole des technologies de détection de mouvement. Puisque apparemment, ces derniers temps, il y a des déclarations qui ont été faites de la part de Sony et également de la part de Microsoft, comme quoi ces deux constructeurs sont en train de travailler sur des manettes ou des périphériques qui permettraient de reproduire une expérience similaire à celle qu'on a sur la Wii, mais de façon beaucoup plus précise. C'est Steve Ballmer d'ailleurs qui disait il y a une ou deux semaines pendant une conférence qu'il faut que tous les journalistes se concentrent sur les prochaines déclarations de Microsoft, qu'ils vont prochainement faire une déclaration. Alors on se dit qu'avec le 3 qui arrive, voilà, ils commencent à teaser un petit peu, et avec le 3 qui arrive prochainement, on se doute que c'est là que Microsoft va frapper un grand coup. Et d'après différentes sources qui n'ont pas voulu décliner leur identité, Microsoft aurait déjà mis en place un système qui serait basé sur une caméra qui observerait le joueur et pourrait déceler des mouvements, mais d'une précision incroyable, puisqu'il serait pratiquement capable de faire la distinction entre vous qui fermez le poing ou qui pincez entre deux doigts. Donc imaginez un petit peu le user experience et le gameplay que vous pourriez avoir avec une précision comme celle-là. Alors pour le moment, rien n'a été confirmé, mais il semble bien que Microsoft soit bien décidé à arracher à Nintendo ce monopole des jeux qui se basent sur la détection de mouvement. Et Sony n'est pas en reste, hein, il travaille. Alors là, on a beaucoup moins de précision, mais apparemment, Sony serait également très travaillé sur la chose, même si la Wiimote, enfin, pas la Wiimote, la PlayStation 6-axis.
La 6-axis, et il y a le PlayStation Eye aussi, la caméra qui existait.
Exactement, ouais, tout à fait. Et là, ils sont en train de travailler sur un truc beaucoup plus précis. Alors, je sais pas, ça fait un petit peu les gars qui essaient de copier, enfin, je sais pas, ça va les desservir plus qu'autre chose, puisque bon, il fallait penser le truc à l'origine, à la sortie de la console. Là, quelques années plus tard, je sais pas si oui, ça va. Enfin, l'image de la console est déjà marquée. On a déjà marqué la PS3 et la Xbox 360 comme étant des consoles de hardcore gamers. Et là, avec leur truc de détection de mouvement, ils essaient de s'approprier un marché de casual. Mais je pense que c'est trop tard, entre guillemets. Et donc, personnellement, j'y crois pas trop, quoi, que ça va déchaîner les foules.
Bah, c'est sûr que l'ajout d'un périphérique après, au milieu du cycle de vie de la console, ça segmente le marché, c'est jamais super bon parce qu'il y a toujours ceux qui l'ont pas. Est-ce que les développeurs vont vouloir développer un truc vraiment poussé pour ce périphérique et segmenter leur marché à leur tour? C'est toujours délicat. Ce qui est sûr, c'est que bon, personnellement, moi, je suis pas client de la Wii, hein, je pense que je l'ai déjà dit ici, et surtout la Wii était assez décevante quand elle est sortie à ce niveau-là, hein, au niveau de la précision de la détection de mouvement.
Ah oui, c'est clair.
C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont sorti leur nouveau Wii Motion Plus, qui là est beaucoup plus précis, mais le fantasme d'avoir une machine qui va vraiment pouvoir détecter tous tes mouvements de manière super précise, si ça fonctionne, ça peut ouvrir des possibilités intéressantes. Et moi, je serais curieux de savoir ce que les gens, les développeurs qui sont attitrés à Microsoft et à Sony pourraient en faire, parce que ça pourrait être quelque chose de plus intéressant que je vais jouer au beach volley ou je vais me peser 3 fois dans la semaine pour voir si j'ai perdu du poids. Enfin bon, j'ai peu d'amour pour la Wii, hein. On l'aura compris.
on l'aura tous compris, ouais.
Enfin.
Jeff, toi, tu penses être client de ce genre de truc ? Je sais que t'es pas très, très friand de la Wii non plus, non ?
Non, pas très friand de la Wii, c'est quelque chose que, qu'on a considéré, mais finalement, comme on a déjà trop d'ordinateurs à la maison, 7 pour 4 personnes.
7 pour 4 personnes ? Remarque, oui, d'accord. J'allais dire, j'allais faire des remarques désobligeantes et puis j'ai compté le nombre que j'en avais chez moi. Donc je vais me taire.
Le problème, c'est que mon fils de 12 ans doit avoir deux ordinateurs. Tu vois, c'est absolument.
Alors là, il faut que t'expliques, c'est pas possible. Il doit avoir deux ordinateurs. Pourquoi ? Il en faut un dans sa chambre et un dans son cartable.
Il a un desktop et un laptop. Donc il a son ordinateur fixe et puis après il a son laptop pour aller travailler dehors ou.
Et il peut pas tout avoir sur un laptop, sur un portable.
Écoute, on va pas rentrer dans cette discussion parce que en fait, quand il y a des copains, tout... bref. Là, j'avais son anniversaire à la maison. J'avais six gamins de 12 ans qui étaient en train de squatter tous mes ordinateurs, donc je ne pouvais rien faire parce qu'ils étaient tous en train de jouer en ligne à des jeux et en fait, ça a été utile.
Ah, donc effectivement, ça sert. Oui, je retire ce que j'ai dit pour les anniversaires
mais
et
pour
les.
Pour revenir à la question. Je pense qu'effectivement, quand on va avoir une finesse des outils qui permettent de reconnaître le toucher et des émotions, des sensations, je pense qu'il va y avoir une nouvelle phase dans le développement des applications qui va vraiment être intéressante. Où est-ce que ça va aller ? Ben, on verra bien.
Moi, je pense que effectivement, ça sera intéressant à cette génération. Par contre, ça sera intégré par tout le monde, évidemment, grâce à l'innovation de Nintendo. Hein, je suis pas en train de nier leur contribution dans le domaine, mais ça prendra vraiment son essor avec la prochaine génération de consoles qui intégrera ce type de périphérique dès le début.
Donc, en HD, s'il vous plaît.
en HD, évidemment. Une autre petite controverse.
Un jour, tu auras du 3D aussi. Oh. Faut pas l'oublier. Non, mais c'est vrai.
Oui, certainement. Mais bon, on n'y est pas encore. Une autre petite controverse dans le domaine du jeu qui est intéressante philosophiquement. Attention, ça devient sérieux même si on parle de jeu. C'est un jeu qui s'appelle 6 Days in Fallujah, qui est censé retracer la bataille de Fallujah, qui est une bataille très célèbre de la guerre du Golfe, d'Irak. Qui est donc développé par une société qui s'appelle Atomic Games. Alors évidemment, on n'a même pas besoin de s'étendre sur toutes les questions éthiques que pose ce genre de jeu. Mais Konami était censé être l'éditeur de ce jeu et quand ils l'ont annoncé, ça a provoqué un tel tollé que ils ont décidé de retirer leur contrat, enfin d'annuler leur contrat de distribution, et donc le jeu se trouve aujourd'hui sans distributeur. Les questions qui se posent, c'est évidemment est-ce qu'on a le droit de transposer ce genre de bataille si récente dans un jeu vidéo où les gens vont aller se battre comme des imbéciles, enfin les gamins de 12 ans vont aller tirer partout et tirer sur les Irakiens et sur les Américains et sur les je sais pas quoi. D'un autre côté,
en même temps, c'est ce qu'on fait dans Call of Duty. Hein.
Voilà, c'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale, qui est également au moins aussi dramatique, est transposée en jeu vidéo en long, en large et en travers. Et là où ça peut devenir intéressant pour ce jeu également, c'est que en dehors du fait que bon, le fait que ça soit un petit peu récent nous provoque nous donne un petit peu plus de recul par rapport au fait de le mettre dans un jeu vidéo. Imaginons qu'il soit fait de manière très sérieuse et de manière un petit peu documentaire. Ça, pourquoi pas, ça peut devenir être une nouvelle manière d'expérimenter une nouvelle manière de raconter cette bataille. Et pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de faire, par exemple, un reportage dessus et pas un jeu vidéo ? La question peut se poser.
C'est délicat, hein. Je pense que c'est vraiment très délicat puisque le problème, enfin, je pense que la grosse différence entre Six Days in Fallujah et Call of Duty, c'est que Là, ce jeu, il est récent. Enfin, l'actualité est récente dans les esprits de tous. Et aller tuer un gars comme ça, alors que deux minutes avant, tu l'as vu aux 20h avec toute sa famille assassinée, etc. C'est beaucoup plus profond. On a l'impression qu'il y a une plus grande distance. On a l'impression finalement que Call of Duty, c'est pratiquement de la fiction, quoi, et que ça s'est pas forcément passé comme ça, etc. Alors que là, tous les jours aux infos, t'as des images horribles. Et je comprends un petit peu
La controverse est compréhensible, hein, la polémique est compréhensible, mais alors à ce moment, est-ce que si on faisait un jeu sur la première guerre du Golfe, ça serait acceptable ? C'est il y a presque 20 ans maintenant. Est-ce que la guerre du Vietnam, c'est acceptable ? Est-ce que, tu vois, où est la limite finalement ? Est-ce que c'est 10 ans ?
Le Vietnam, 30 ans ? T'as énormément de jeux aujourd'hui sur le Vietnam. Donc je pense qu'effectivement, c'est la proximité temporelle entre le jeu et le fait que tu tournes une situation en quelque sorte en dérision, et le fait que t'es encore des GIs en Irak, et malheureusement, il y en a encore plein qui meurent chaque jour, quoi.
Ouais, disons que moi, je pense que ça pourrait être intéressant si c'est fait très sérieusement avec un esprit presque documentaire et éducatif. Si jamais c'est fait à la sauce des first-person shooters, des jeux de tir habituels où on doit en dégommer autant que possible et c'est un petit peu jeu d'arcade.
Que tu débloques des succès pour avoir massacré.
Ouais, là je comprends, c'est sûr que la question ne se pose même plus vraiment, quoi. Dernière info avant de passer, on va avoir juste une petite rumeur aujourd'hui, mais une dernière info pour les vieux de la vieille des jeux vidéo. C'est Yann qui a ajouté ce sujet dans l'émission, donc je vais le laisser en parler avec une larme à l'œil.
Il n'y a pas que Six Days in Fallujah qui ne verra pas le jour. Il y a également une grenardésienne qui ne s'est jamais pointée dans les rayons de la FNAC, c'est Duke Nukem Forever. Et maintenant, on a la confirmation ultime que ce jeu ne verra jamais le jour. 3D Realms, qui est le développeur de ce jeu, a définitivement fermé ses portes, et donc le jeu qui avait subi le plus de moqueries ces 10 dernières années, parce que tout le monde savait qu'il sortirait jamais.
Il est en développement depuis quoi, 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça.
Ouais, largement. Enfin, je me souviens que j'étais encore au lycée quand on en parlait et tout, donc voilà quoi. Ouais, ça m'a fait un bon moment, et donc voilà quoi, il ne sortira jamais. Et bon, c'est un petit peu dommage quoi, parce que je me dis que quelque part toutes ces moqueries qu'il y a eu autour de ce jeu, comme quoi il sortirait jamais, toutes ces pensées négatives, je pense que il y a de ça aussi derrière, tu vois, au niveau des investissements, etc. Tous les investisseurs se disent de toute façon votre jeu personne l'achètera, puisque tout le monde se fout de sa gueule maintenant, donc je pense que c'est peut-être pour ça. C'est un petit peu dommage, quoi. On n'aura plus un jeu sur lequel se moquer dans les prochaines années.
Oui, c'est ça aussi. C'est que notre vaporware favori finalement ne sera plus là, puisqu'il n'est même plus du vaporware aujourd'hui.
C'est bien dommage. En plus, avec les moteurs 3D qu'il y a en ce moment, enfin, comme je le disais la dernière fois, avec les moteurs 3D qu'ils font en ce moment, ça aurait été sympa de voir un petit peu les stripteaseuses de Duke Nukem avec 40 000 polygones. Ça risque de bien donner, quoi. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas voir ça non plus.
Pour les gens qui n'étaient pas nés à l'époque des premiers Duke Nukem, et on dit ça. Tu sais, c'est presque un jeu de langage, mais en l'occurrence, c'est littéral. Il y en a qui n'étaient pas nés, sans doute, qui écoutent cette émission. Duke Nukem était un jeu à la Doom, Quake, ce genre de choses, un petit peu trash, un petit peu rock'n'roll, et donc il est devenu mythique dans l'univers des gamers, et malheureusement la suite ne verra jamais le jour. On passe donc à notre rumeur, il n'y en a qu'une seule, et c'est même pas une rumeur en fait, c'est une histoire à la con sur laquelle je vais passer très rapidement, qui est les nouveaux employés assez sympathiques de chez Google. Google a décidé d'employer 200 chèvres pour tondre son gazon, parce qu'ils ont fait les calculs. Non, c'est vrai en plus. Ils ont fait les calculs et ils se sont rendus compte que ça leur coûtait le même prix que de les tondre, que de tondre le gazon avec des machines, avec des tondeuses, hein. Mais c'était plus écolo. Et en plus, ça fertilise automatiquement le sol, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a donc 200 chèvres, il y a un parc de 200 chèvres aujourd'hui sur le campus de Google aux États-Unis, ce qui est quand même une nouvelle qui vaut le coup d'être signalée, je pense.
Alors, il y a une controverse quand même, faut le savoir, qui est, étant donné la production de méthane des chèvres, il est considéré que l'effet de serre est aggravé par les chèvres plus que par les tondeuses qui étaient des tondeuses au pétrole.
D'accord. Donc, ah oui, donc les
controverses sur le sujet.
On n'en sort jamais. C'est infernal.
Et Mike Harrington a d'ailleurs interpellé Eric Schmidt à la dernière. Conférence qu'a organisé Google avec des journalistes en disant donnez-nous des nouvelles des chèvres. Ça a beaucoup fait rire.
Et qu'est-ce qu'il a dit le CEO?
Je sais pas s'il a répondu. L'histoire ne le dit pas.
Oui, il faut avouer que c'est quand même une nouvelle extrêmement importante dans le contexte économique actuel. Que deviennent énormément. Les Google chèvres?
Que deviennent les Google chèvres? En fait, la question c'était, mais attends, les chèvres prennent le job des mecs qui étaient censés tondre la pelouse.
C'est vrai en plus. Ah mon Dieu, bon, vous savez quoi, on va arrêter de parler de toutes ces histoires dont on ne se sort pas pour aller à notre conclusion avec un conseil logiciel double, puisque certains s'étonneront peut-être que nous n'ayons pas parlé de Windows 7.
Windows quoi ?
On en parle. Ne fais pas de mauvais esprit. Windows 7, la plupart des aficionados de technologie sont au courant, mais notre conseil logiciel aujourd'hui, c'est Windows 7. Et oui, figurez-vous
rien que ça.
Vous pouvez, et oui, rien que ça. Vous pouvez aller télécharger gratuitement Windows 7 version Release Candidate. Alors, qu'est-ce que c'est que la RC, la Release Candidate? C'est la version qui est candidate au lancement. Donc, c'est une version qui est complète, terminée à 99%. Et Microsoft a décidé de la mettre à disposition gratuitement pour tout le monde. Généralement, ce genre de release est un petit peu limité. Là, c'est gratuit pour tout le monde et elle reste active pendant un an entier. Donc, si vous voulez installer Windows 7 gratuitement sur votre ordinateur, vous pouvez l'avoir pendant un an à l'adresse que je mettrai sur le site dans les notes de l'émission. Il faut savoir que après un an, la copie de Windows reste active. Par contre, si vous n'avez pas acheté la version officielle, il redémarrera toutes les deux heures tout seul. Donc, c'est un petit handicap pour l'utilisation, mais ça reste utilisable. Donc, vous ne vous retrouvez pas avec une version complètement inactive au bout d'un an. Voilà, ouais. Et il faut savoir que Windows 7 est a priori une version acclamée par tout le monde dans le monde de la technologie, même ceux qui n'aiment pas Windows Vista. Donc, vous pouvez
sauf
y aller les yeux fermés. Oui, non, mais Mathieu, ça compte pas. Notre cher Mathieu de MacJT, il est un tout petit peu biaisé pour le Mac. Un petit peu, hein.
Un tout petit peu.
Mais bon, ça veut dire que donc on peut pas prendre son avis en considération.
Non, mais bon, je vais faire un petit peu mon MacJT en disant qu'il y a, je viens d'installer là justement à Windows 7. Il y a un truc quand même qui m'a dérangé avec, c'est le processus d'installation. Alors il est génial, hein, franchement, tu cliques sur un bouton, ça installe tout, t'as aucune question qui t'embête en plein milieu du processus d'installation. Tu peux lancer l'installation et partir au ciné, tu reviens, c'est installé. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que le numéro de série, il te le demande à la fin. Tu vois, c'est une fois que tu as bien flingué toute ta partition et que tu as tout perdu, etc. Là, elle dit, au fait, tu me passes ton numéro de série et s'il marche pas ou que ça a déjà été activé pour une raison X ou Y, ben voilà, tu as tout perdu. Donc, c'est un petit peu dommage. J'espère qu'ils vont rectifier ça et qu'ils vont le poser à l'avant, avant comme ils le faisaient sur Windows XP. Et comme Patrick vous disait qu'il y avait deux conseils logiciels, je vais également donner le mien. C'est un truc qui m'a sorti d'une galère quand j'étais au boulot. Et je pense à toutes ces personnes qui travaillent en entreprise et qui sont derrière 36 firewalls qui ne peuvent pas du tout sortir et qui n'arrivent pas à accéder à leur site, même si c'est pour travailler. Enfin, moi, j'étais au boulot, je devais aller sur des sites pour le taf, mais j'y arrivais pas puisque la politique de sécurité m'empêchait d'aller sur ce site. Bref, il y a un logiciel qui est absolument génial, qui est gratuit. Enfin, il y a une version payante également, mais il s'agit de LogMeIn. C'est un logiciel que vous pouvez télécharger, que vous installez donc sur votre ordinateur chez vous. Et ensuite, quand vous êtes au boulot, quand vous êtes en vacances, quand vous êtes chez votre copine, chez votre mère, etc., ben, vous allez sur le site de LogMeIn, vous entrez vos identifiants et vous contrôlez à distance votre ordinateur chez vous. Et comme vous êtes sur votre ordinateur distant, ben, vous pouvez aller sur tous les sites que vous voulez, vous pouvez lancer tous les téléchargements que vous voulez, vous pouvez faire absolument tout et avec un drag and drop, ben, vous pouvez glisser et déposer des fichiers sur votre ordinateur distant et prendre des fichiers de votre ordinateur distant et les déposer sur votre ordinateur de bureau, quoi. C'est vraiment très très pratique, c'est super simple d'utilisation. Il y a une version gratuite, il y a une version payante qui permet de faire un petit peu plus de choses, mais je le recommande vraiment parce que il ne passe pas par des ports particuliers. Si vous arrivez à accéder à internet, vous pouvez accéder à ce logiciel et outrepasser tous les trucs qui pourraient vous embêter avec un firewall, quoi.
C'est-à-dire que on l'installe sur notre ordinateur, mais par contre quand on veut accéder à notre ordinateur, on passe par le site de LogMeIn ou on doit installer un autre logiciel sur l'ordinateur duquel on fait des choses?
tu installes un petit truc comme si tu installais MSN Messenger sur ton ordinateur, tu installes un petit client sur ton ordinateur, et après, quand t'es dehors ou au boulot, tu vas sur le site de LogMeIn, et tu ont tes identifiants, et tout de suite, il te permet de prendre le contrôle de ton ordinateur, qu'il faut bien évidemment laisser allumer, hein, pour pouvoir en prendre le contrôle à distance, sinon ça marche. Mais tu rigoles, mais en plus, il m'est arrivé un truc, j'ai une petite anecdote rapide à raconter à ce niveau-là, c'est que, une fois que j'avais installé ça, du boulot, j'avais besoin d'écouter de la musique pour me concentrer, puis en tant que codeur, il te faut de la musique dans les oreilles pour pouvoir coder plus rapidement.
Ah oui, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis j'en avais besoin pour le boulot, des trucs importants.
Bah ouais, c'est pour coder plus rapidement. Et le truc, c'est que, tu sais, donc je mets mon casque et tout, je lance Winamp, je commence à lancer ma playlist habituelle, et je code comme ça pendant toute l'après-midi, j'écoute mes morceaux, etc. Je tape super bien, et puis le soir, je rentre chez moi, et je suis dans l'ascenseur, mais dès l'ascenseur, j'entends un boucan, mais infernal. Et plus je me rapproche de chez moi, plus j'entends un boucan infernal. Et en fait, je me rends compte que, ben, quand vous lancez Winamp à distance, ben, ça lance également Winamp chez vous, avec les haut-parleurs, etc., quoi. Donc, il y avait tous les voisins qui sont descendus, qui m'ont engueulé et incendié. C'était infernal. Donc, faites attention à baisser le son avant de.
Pas mal. Voilà. Excellente histoire. Mais,
Yann, tu nous as pas dit ce que tu pensais de Windows 7.
Ah, je trouve que c'est un système d'exploitation extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui sont bien mieux pensées que sur Windows Vista. Il est bien plus véloce. Des petites applications qui ramaient sur 7 ne rament plus du tout qui ramaient sur Vista ne rament plus du tout sur 7. La présentation des options. Enfin, quand tu veux configurer quelque chose, il ne te noie pas au milieu de plein de textbox et de messages, etc. Tu veux configurer ton réseau Wi-Fi, tu sélectionnes ton réseau Wi-Fi et tout ce qu'il te demande, c'est la clé Wi-Fi. Il te propose pas de menus bizarres, etc. pour configurer je ne sais pas trop quoi. Tout est vraiment très très simple et l'interface est allégée, c'est intelligent. Enfin, il faut vraiment le tester pour pouvoir comprendre. Et je pense que effectivement tous ceux qui ont été déçus avec Windows Vista reprendront confiance dans les systèmes d'exploitation de Microsoft avec 7.
Cool.
Plein d'espoir. J'en viens à espérer des choses que je ne pensais plus pouvoir espérer. Encore que moi, j'aime bien Vista. Donc. Dernière chose avant nos messages et nos emails. Et là encore, je passe la parole à Yann, puisque c'est lui qui nous a trouvé ce site fantastique.
Oui. Alors, comme on a une rubrique site fantastique, j'ai essayé d'en soumettre un. C'est un site que j'ai découvert récemment qui s'appelle iMeme. IMEEM, qui est un site un petit peu dans la même veine que Twitter, qui permet d'écouter de la musique en streaming.
Que Deezer. Donc, que Deezer.
Deezer. Deezer, désolé.
Oui, en fait, t'étais frustré parce qu'on n'a pas eu notre quart d'heure Twitter cette émission. C'est la seule fois depuis le début.
Twitter, qu'est-ce que t'as fait?
Ouais, je sais. J'y peux rien. Ça prouve que je n'invente pas les news Twitter pour le plaisir d'en parler. Hein. Là, il n'y en avait pas, j'en ai pas parlé. Voilà.
Donc. C'est vrai. Donc, je disais iMeme, donc qui est un site de la même veine que Deezer, donc qui permet d'écouter donc de la musique en streaming de n'importe où. Mais là où ce site fait fort, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de choix que sur Deezer. Et c'est même les trucs que vous avez entendu il y a 30 ans, qu'il y a que 3 personnes au monde qui l'ont acheté, vous allez quand même le trouver sur iMeme pour une raison très simple, c'est que ce sont les utilisateurs, les internautes qui fournissent donc le site en musique, et donc du coup ça se remplit beaucoup plus rapidement et il y a vraiment toutes sortes de musiques possibles et imaginables, et donc voilà quoi, vous trouvez vraiment tout. Et la petite histoire, le truc qui est derrière tout ça, parce qu'on se dit mais finalement c'est pas forcément très très légal tout ça, c'est que derrière cette machine, les fondateurs du site se disent, on explique très simplement que s'ils peuvent mettre tout ça en téléchargement, enfin en écoute légale, c'est parce que les majors, s'ils ne se manifestent pas, on laisse le truc en streaming. S'ils se manifestent, on coupe au bout de 30 secondes. Donc globalement, tous les titres qui ont 20, 15, 30 ans d'existence et dont les majors se foutent complètement parce que ça s'est pas vendu de toutes les façons, ils ne se manifestent pas pour protéger leurs morceaux. Et donc du coup, vous pouvez les écouter et en bénéficier gratuitement. Et honnêtement, moi j'ai sincèrement trouvé qu'il était bien plus complet, bien plus riche que Deezer. Et il y a un test très très simple pour ça, c'est que vous cherchez Francky Vincent ou la Compagnie Créole dans ce genre de site. Et là tout de suite, vous voyez à quel point c'est riche comme...
Il y a la Compagnie Créole sur iMeme. Oh ben.
C'est ce qui en prouve immédiatement la qualité. Je pense que les gens vont tout de suite se précipiter là. Non, ceci dit, c'est sûr que si c'est un site du type Deezer, mais qui a sa petite niche de musique rare ou un petit peu plus ancienne, ça peut être très intéressant et une ressource dont on devrait se souvenir pour épater ses amis dans les soirées.
C'est enfin, iMeme, c'est beaucoup plus qu'un site de niche, au sens où c'est un énorme site qui a été lancé en 2003 par un mec qui s'appelle Donald Caldwell, juste à la sortie de Stanford, et qui très récemment a fait la une parce qu'on pensait qu'ils étaient à deux doigts de la banqueroute, et qui au tout dernier moment a reçu un nouveau tour de financement de ces VC en fait, qui ont décidé de prolonger leur vie. Et c'est vrai que c'est un site super populaire parce qu'on trouve énormément de musique. Le problème pour eux, c'est de développer un modèle de business qui soit fiable. Et le problème, c'est que vu les coûts de streaming, puisque c'est un site énorme, bah clairement c'est un peu comme YouTube quoi, c'est pas facile d'équilibrer les choses quoi.
C'est sûr. Bon, donc iMeme, l'adresse, si vous ne la trouvez pas, sera également dans les notes de l'émission. Écoutez, avant de conclure, on va passer à un petit message qu'on a reçu de la part de Jean Daniel. Il nous a envoyé un MP3, comme on vous y invite tous. Et c'est un MP3 qui est un petit peu long, qui fait 2 minutes et demie, je crois. Donc, on va quand même le passer ici. Mais si vous voulez envoyer un message, essayez de le garder un petit peu plus court, de le faire autour de 30 secondes, ça serait bien. Quoi qu'il en soit, je laisse le message de Jean Daniel qui nous fait 2 ou 3 petites remarques et qui a 2 ou 3 petites questions du même coup.
Salut à tous, c'est Jean-Daniel à Kassamji. Je voulais vous faire un petit feedback. D'abord, ça fait pas très longtemps que j'ai découvert le Rendez-vous Tech. Je suis en train de tous les écouter à la suite. J'ai pas terminé le numéro 7, je l'ai pas encore écouté. Mais voilà, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Il se trouve que je suivais déjà le podcast de Matt, le Mac JT, que j'aime bien aussi. Alors, je voulais vous faire un petit feedback pour 2 choses. Alors, d'une part, pour le Rendez-vous Tech, j'apprécie beaucoup. En revanche, c'est très long. Très long, pourquoi ? Parce que 1h30, sincèrement, c'est pas facile à caser comme ça. Hein. Ouais, on a beau avoir son iPod, iPhone, n'importe quoi sur soi, etc. Enfin, c'est vraiment un long format. Bon, j'apprécie l'émission, mais j'ai du mal. Faut vraiment que je me trouve un long moment de route pour arriver à me faire ça. Voilà, ça c'est une petite opinion. Ensuite, une petite remarque pour vos 2 podcasts. J'en discutais avec d'autres potes sur une liste un petit peu geek. Vous vulgarisez beaucoup. Il y a beaucoup de choses sur les 2 podcasts, donc que vous abordez avec une volonté de vulgarisation, de simplification, qui est plutôt bien faite et je pense qu'il peut être très intéressante. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur un point. Moi, j'ai l'impression que les podcasts, à peu de choses près, il n'y a que les geeks qui écoutent ça. Je connais personne dans mon entourage, tous les gens qui ont des iPods, qui ont des iPhones, qui ont des machins. Les podcasts, ouais, ils ont vu, mais personne n'en écoute, personne ne sait ce que c'est. À la limite, ils écoutent 1 ou 2 émissions d'Europe 1, de RTL ou autre, parce que ça, c'est les choses qu'ils connaissent, et puis ils ont découvert ça, mais c'est tout. Le reste, personne n'en écoute. Alors, est-ce que vous, enfin là, c'est vraiment une vraie question, est-ce que vous, dans les retours que vous avez, est-ce que vous avez des auditeurs qui sont des néophytes complets, qui sont des gens qui débarquent, qui n'ont pas de connaissances ou d'envie particulière technique, qu'on ne classerait pas dans les non-geeks, quoi. Enfin, dans les geeks, pardon. Qui, comme moi, qui ne vous dirait pas comme moi, ben, salut, c'est Sanji sur Twitter, quoi. Voilà, ben, j'aimerais bien avoir votre avis. À bientôt, et puis, bravo pour la suite. Bye bye.
Bon, c'était un message un petit peu long, comme l'a fait remarquer Jeff pendant le commentaire. C'est un petit peu ironique parce qu'il dit que le podcast est long et lui-même envoie un commentaire assez long. Mais en tout cas, donc il y a plusieurs choses qu'il aborde. Donc merci beaucoup Jean-Daniel hein, pour ton message. D'abord le fait que l'émission en elle-même soit longue. Le truc c'est qu'on est toutes les deux semaines et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et effectivement, c'est une émission qui s'adresse à des gens qui sont intéressés par ce genre de sujet. Je me vois mal en faire un truc de 20 minutes. Il y a d'autres émissions, par exemple Mathieu dont on parlait avec le Mac JT fait 15-20 minutes par soir. Bon, moi je suis plus adepte des podcasts un petit peu plus longs où on a le temps de développer, d'expliquer, de discuter, de rigoler aussi surtout. Et puis je pense que c'est un petit peu une habitude à prendre. Les gens ont besoin de trouver un moment pour écouter ces émissions quand ils regardent, je sais pas, par exemple beaucoup la télé ou ce genre de choses. Et puis de plus en plus, j'ai l'impression que les gens se détachent un petit peu de la télé, par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, ou alors écoutent l'émission en surfant sur Internet, ou alors en faisant leurs courses, ou t'es pas obligé de le prendre dans ta voiture, comme tu le disais, Jean-Daniel, et de trouver un bloc de 1h30 de route qui effectivement va pas être...
Il va chercher des embouteillages exprès, tu sais.
Ouais, c'est ça. ou alors le faire tous les matins, tu vois, tu te fais 20 minutes sur l'aller, 20 minutes sur le retour, enfin bon. Donc effectivement c'est un petit peu long, mais je préfère faire une émission complète plutôt que une émission plus courte qui soit plus pratique à écouter directement du web. Ça c'est personnel, hein, c'est le truc que j'aime bien faire. Et pour la question du public, c'est amusant parce que autant il y a des gens qui me disent l'émission est un petit peu vulgarisée et donc ça c'est dommage pour les gens qui sont connaisseurs. Autant j'ai énormément de gens qui me disent l'émission est vulgarisée donc c'est génial, je peux écouter et comprendre, et il y a d'autres personnes qui écoutent et comprennent en même temps. Et là ça répond, j'ai un commentaire sur iTunes qui répondra un petit peu à cet aspect du commentaire de Jean-Daniel également, mais d'une manière générale, non seulement je pense que les gens aiment l'aspect vulgarisé, enfin une partie des gens, moi je veux pas m'adresser uniquement aux grands connaisseurs avec des termes techniques et un langage incompréhensible, donc non seulement il y a des gens qui écoutent, mais en plus c'est vrai que d'une manière générale les podcasts commencent à se développer pas mal depuis quelques mois. Yann le sait bien puisqu'on se rencontre de temps en temps avec des amis podcasteurs, et il y a de plus en plus de podcasts différents, et je pense que le public est en train de s'élargir, et je pense que tu serais surpris, Jean-Daniel, de savoir à quel point il y a des nouvelles personnes qui y viennent tous les jours. Donc, et je pense que pour plaire à la plupart des gens, il ne faut pas rester enfermé dans le parc des geeks, des technophiles. Donc voilà, c'est un parti pris que j'ai moi. Maintenant, il est certain qu'il y aurait peut-être la place pour... C'est ça qui est merveilleux avec les podcasts, c'est que si quelqu'un a envie de faire une émission très très technique et très dense d'une demi-heure toutes les semaines, c'est très facile de s'y mettre, et Jean-Daniel ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas, moi je pense qu'on serait tous heureux de vous accueillir dans la grande famille des podcasteurs. Voilà. Pour moi, les podcasts, c'est un petit peu comme des chaînes spécifiques du câble, ce qui s'adresse à un petit nombre, relativement petit nombre d'auditeurs, mais c'est comme une chaîne du câble, sauf que c'est plus pratique et c'est plus sympa.
Ça me rappelle un petit peu les débuts d'Internet, tu sais, où quand tu commences quand tu commençais à surfer un petit peu, ma mère qui me disait oh mais c'est quoi ces trucs compliqués et tout, ça doit vraiment être un truc que je comprendrai jamais. Et puis aujourd'hui, elle envoie des mails et elle me floude avec toutes sortes de trucs que c'est inimaginable. Donc je pense que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a de plus en plus de gens qui tombent sur des podcasts par accident. C'est ils surfaient sur Facebook et puis ils tombent sur un lien, ils écoutent. Et c'est vrai que je pense sincèrement que une belle quantité de nos auditeurs sont des geeks, mais ce qu'on remarque dans les commentaires sur iTunes et qu'on discute avec les gens, c'est qu'il y a de plus en plus de gens de tous les horizons, et j'encourage Jean-Daniel à jeter un coup d'œil sur les commentaires des podcasts, pas forcément le nôtre, mais sur tous les commentaires des podcasts d'iTunes, et tu remarqueras qu'il y a de plus en plus de gens de tout horizon qui nous écoutent pendant qu'ils font la vaisselle, par exemple, et alors qu'ils sont, je sais pas moi, architectes en bâtiment et qui sont pas du tout geek, quoi. Donc, et même ma femme nous écoute, alors que c'est pas du tout son profil. Enfin bon, c'est ma femme, donc je la force aussi à écouter.
C'est voilà. Sûr que il y a quand même une différence par rapport aux émissions de RTL ou de, enfin je sais pas moi, ce genre de programme un petit peu plus professionnel, une différence de ton, une différence de manière d'aborder les choses. Et je pense que c'est cette liberté de ton, cette interaction avec la communauté, cette accessibilité en fait, qui séduit dans le podcast. Et quand les gens, il y a peut-être une barrière à l'entrée un petit peu plus grande, donc les gens vont pas s'y mettre facilement. Par contre, une fois qu'ils s'y sont mis, généralement ils apprécient et ils deviennent assez fidèles. N'est-ce pas la chatroom? Ouais, vous les entendez
oui,
pas.
Oui, puis le gros avantage, c'est que tu vas trouver des podcasts sur n'importe quel sujet qui pourrait être ton intérêt personnel, qui pourrait être ta passion. Le problème derrière, c'est de sélectionner les programmes que tu vas écouter et si t'as pas beaucoup de temps. Moi, je sais que typiquement, mon écoute de podcast, c'est quand je vais faire les courses le week-end ou de temps en temps, quand je fais l'aller-retour entre Palo Alto, San Francisco et que je suis pas au téléphone. Donc, j'ai pas beaucoup de temps et donc, il faut que je trouve en 2-3 heures par semaine le temps d'écouter les quelques trucs sur lesquels je veux m'atteler.
Donc, si vous n'en écoutez qu'un, il faut écouter le Rendez-vous Tech, bien sûr. Bon,
tu parlais de toi qui l'as dit.
C'est toi qui l'as dit.
iTunes, donc, comme vous le savez, iTunes, c'est le répertoire principal des podcasts où vous pouvez aller pour en découvrir de nouveaux, hein, évidemment. Et vous pouvez également y aller, puisque vous y serez passé, pour nous laisser un petit commentaire. Comme on vous le dit souvent, c'est les commentaires sur iTunes qui nous aident à avoir un petit peu plus de visibilité dans le grand répertoire du monde des podcasts français. Et on a cette fois-ci 88 avis, enfin on est monté à 88 avis, donc la centaine s'approche, c'est assez émouvant. Et celui que j'ai retenu pour en parler, puisque c'est en relation avec ce qu'on disait justement à l'instant, c'est que c'est Dark Maka qui nous dit « Même ma femme qui est néophyte en technologie l'écoute et l'adore ». Et je pense que Dark Maka n'est pas Yann, hein, c'est pas ta femme en fait dont tu parles là.
Non.
D'accord, ok, ça va. Donc effectivement, il y a une autre femme d'un auditeur qui l'écoute et qui l'adore et il dit de plus, je ne passe pas un épisode sans me marrer et je pense que là c'est le but qui est atteint aussi puisque l'un des objectifs de l'émission, c'est pas seulement de vous donner les news mais également de vous faire passer un bon moment et je suis content de voir que ça marche pour Dark Maka en tout cas. Donc voilà, ça c'était pour la petite minute de promo iTunes. Et avant de vous dire au revoir, Jeff m'a rappelé qu'il y avait une histoire dont on n'avait pas parlé et qui était assez intéressante. Donc je vais le laisser en parler parce que effectivement c'est innovant et plutôt intéressant. Donc vas-y.
L'administration Obama, qui a beaucoup utilisé le social media, donc Twitter, les blogs, Meetup, etc., pendant la campagne, a décidé de mettre en place une politique assez étendue de social media une fois installée à la Maison Blanche. Et donc, si vous allez sur le site whitehouse.gov et que vous descendez un petit peu sur le côté droit, vous verrez un encart qui s'appelle Stay Connected, où vous trouverez le compte Facebook, le compte Twitter, le compte Flickr, le compte MySpace, le compte YouTube, le compte Vimeo et le compte iTunes de la Maison Blanche, où ils vont poster en fait énormément de contenu, que ce soit des petites news sur Twitter, que ce soit énormément de photos des 100 premiers jours de l'administration Obama sur Flickr, ce qui est super intéressant si vous avez un petit quart d'heure à perdre, aller voir ces photos, c'est assez intéressant. Et je trouve que c'est très bien parce que ça pousse vers le public de plus en plus d'informations, de plus en plus de transparence. Et je pense que c'est bien, c'est très bien.
Oui, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il faut en parler parce que c'est une administration qui, pour la première fois de l'histoire, on a l'impression que ce sont des gens qui sont vraiment modernes et au-delà de ça, ce sont des gens qui vivent dans notre monde. Et il y a cette déconnexion qui est un petit peu moins ressentie, en tout cas par rapport au monde politique. Et c'est une initiative qu'on ne peut qu'applaudir. Et j'invite vraiment, comme tu le disais, Jeff, j'invite tout le monde à aller voir sur Flickr, qui est un site d'archivage de photos, en fait, d'aller voir les photos des 100 premiers jours parce qu'on a l'impression d'avoir un reportage avec des photos magnifiques, vraiment intéressante sur les 100 premiers jours de l'administration Obama. C'est quelque chose de louable, une initiative vraiment louable.
Et ce sont des photos qui sont en plus assez inédites, c'est-à-dire que ce ne sont pas les photos qu'on va retrouver auprès des autres agences de presse, ce sont des choses qui ont été prises pendant des réunions en interne à la Maison Blanche, etc. Donc franchement, ça vaut le coup. Et un shout-out à ma copine Cathy Stanton, qui est en fait la responsable de l'équipe qui fait ça.
Ah, c'est vrai. Bah écoute, tu pourras lui passer les félicitations officielles de la France. représenté
bah écoute,
par...
Écoute, je lui transmettrai segment parce qu'elle parle un petit peu français.
Ah oui, bon bah écoute, voilà. Tu pourras effectivement lui dire que nous sommes fiers de sa représentation de notre culture technophile. Et bah d'ailleurs, elle l'entendra peut-être elle-même. Merci Cathy. Bon, et c'est sur ces bons mots qu'on va conclure notre émission en vous invitant à aller nous rendre visite sur le site lrdv.fr. Vous pouvez également nous envoyer un email à l'adresse tech@frenchspin.com, que ce soit des commentaires ou un fichier MP3 pour nous envoyer un fichier audio, des félicitations ou des critiques, hein, on est preneurs aussi. Vous avez évidemment toutes sortes d'informations sur le site, le calendrier, les détails pour le live, etc., etc. Si vous voulez vous joindre à nous pour la prochaine fois, la prochaine émission sera, si tout va bien, je ne veux pas dire de bêtises, si tout va bien, le 25 mai, toujours le lundi à 22h, heure de Paris. Et d'ici là, on vous souhaite de merveilleuses semaines et on vous dit à très bientôt. Excusez-moi, je vais quand même donner à mes deux invités l'opportunité de parler de leur site ou de leur compte Twitter, parce qu'il faut qu'on en parle un petit peu. Yann, où peuvent te retrouver les gens ?
Ben écoutez, si vous voulez suivre mes activités, tout ce qui se passe dans ma vie, vous pouvez toujours me suivre sur twitter.com/yanale. Et si vous voulez savoir un petit peu sur quoi je travaille, les logiciels que je développe, etc., passez sur www.yanale.com. Le site est actuellement en cours de reconstruction et refonte totale, donc essayez de repasser d'ici deux semaines, il y aura beaucoup de changements et beaucoup de surprises, donc voilà.
Ouh, très excitant. Jeff ?
Twitter.com/Jeff.
Ah, tellement simple, à chaque fois ça me perce une petite partie du cœur. Et moi c'est bien sûr Twitter.com/NotPatrick. Merci à tous, bonne deux semaines et on se revoit très bientôt. Ciao ciao.
Salut.
Au revoir à tous.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.